Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h avec vos rendez-vous habituels. Dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis un débat d'actualité ce samedi. La démocratie sociale en question. Et si nous étions en train d'assister à la revanche du vieux monde, le monde des syndicats, de formes de lutte qu'il aurait fallu pour certains ranger au musée de la démocratie sociale. Et si nous n'en avions pas encore fini avec ce monde ancien? Pour en débattre, l'un des grands spécialistes de la France politique, professeur à Sciences Po, observateur privilégié du mouvement des Gilets jaunes, il était l'un des 5 garants du grand débat national et il publie Le Grand Écart chez Plon et c'est passionnant. Pascal Perrineau sera notre invité dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
La directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Et heureux de vous retrouver. On va revenir sur quelques-uns des temps forts de la semaine avant l'actualité française. On va commencer par le 70e sommet de l'OTAN qui se tenait à Londres et c'était mardi lors d'une conférence de presse. Une scène ahurissante, cet échange entre Emmanuel Macron et Donald Trump avec un président américain qui affirmait que beaucoup de djihadistes étaient venus d'Europe et il proposait, avec beaucoup d'ironie, à Emmanuel Macron de récupérer ces, je cite, ces beaux combattants de l'État islamique.
Would you like some nice ISIS fighters?
You can take everyone you want.
Let's be serious. The very large number of fighters you have on the ground are ISIS fighters coming from Syria, from Iraq and the region.
Traduction, Donald Trump ironique, aimeriez-vous récupérer certains de vos beaux combattants de l'État islamique? Vous pouvez prendre tous ceux que vous voulez. Et la réponse d'Emmanuel Macron, soyons sérieux, une grande partie des combattants déployés sur le terrain viennent de Syrie, d'Irak ou des alentours. Donald Trump n'a pas vraiment eu l'air convaincu par les explications d'Emmanuel Macron.
This is why he's a great politician, because that was one of the greatest non-answers I've ever heard. And that's okay.
C'est pour ça que c'est un formidable responsable politique. C'est la meilleure non-réponse que j'ai jamais entendue. Fermez les guillemets. C'était évidemment Donald Trump. Je voulais qu'on revienne sur cet échange, Natacha et Gilles, parce qu'il me semble que c'est du jamais vu, en tout cas, en matière diplomatique et particulièrement entre des alliés, Natacha.
Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cet échange. Première chose, il fait suite évidemment à l'interview d'Emmanuel Macron dans The Economist, disant que l'OTAN est en mort cérébrale. Il y a eu ensuite la réponse de Recep Erdogan, c'est Macron qui est en mort cérébrale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une brutalisation des rapports entre chefs d'État qui, en elle-même, est profondément inquiétante. Parce que ça révèle en fait une absence de limites, une montée des tensions qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la réponse d'Emmanuel Macron aurait dû être... Mais s'il y a des combattants en Syrie, c'est parce que le Moyen-Orient a été totalement déstabilisé par les États-Unis. L'Europe paye la stupidité des Américains et la façon dont ils ont totalement mis à mal cette région du monde. Nous en sommes non pas les responsables, ouais, mais en partie les victimes, en particulier la France qui avait refusé d'intervenir en 2003. Simplement, Emmanuel Macron n'a pas répondu cela parce que c'était évidemment une montée supplémentaire des tensions, mais le principe là, ce qui est en train de se passer, c'est en effet la confirmation de la mort cérébrale de l'OTAN.
Et on va y venir justement, parce que c'est intéressant cet échange. Est-ce que vous partagez l'analyse de Natacha Gilles?
Oui, il y a un niveau de violence dans les déclarations, y compris entre alliés. Là, vous parlez de celle entre Donald Trump et Emmanuel Macron, ce n'est rien par rapport à celle avec Recep Erdogan, qui est lui aussi dans l'OTAN et dont la réponse à Emmanuel Macron a été d'un niveau de violence qui était absolument dingue. Ce qui est très frappant, c'est que depuis maintenant 2 mois, Emmanuel Macron, par ses mots, a réussi à braquer beaucoup de nos partenaires, un peu de la même manière qu'il avait réussi à le faire sur le front intérieur.
C'est le président français qui est responsable, d'après vous?
Alors, c'est le président français qui a mis les pieds dans le plat. Et peut-être pour le résumer d'une formule, ça me fait penser, je ne sais pas si la formule est de Madame de Staël, c'est mais on peut avoir tort dans la manière qu'on a d'avoir raison.
Traduction
sur la forme. Emmanuel Macron a dérangé. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça a provoqué, mais pas seulement avec Donald Trump, y compris avec nos autres partenaires européens, pourquoi ça provoque une telle réaction. Et je crois qu'au fond, c'est parce que Emmanuel Macron est français. Ça veut dire qu'il y a le soupçon lié à la mémoire du gaullisme. Le fait que pendant de nombreuses années, la France a été hors du commandement intégré de l'OTAN, qu'elle y est rentrée aujourd'hui, et que les déclarations d'Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas seulement la mort cérébrale de l'OTAN, parce que c'est en même temps, il faut nouer un nouveau dialogue avec la Russie, tout ça crée un soupçon de la part de nos partenaires. Et à cela s'ajoute un autre élément qui est rarement souligné, qui me paraît très important. Il y a une inquiétude française qui est liée au fait que le langage n'a pas la même fonction pour nous que pour les autres. Pour un Français, le verbe, ça sert à dessiner une stratégie, donner sa vision, avancer. Pour un Allemand, quand on a une vision, c'est la formule d'Helmut Schmidt, il faut aller consulter son médecin. Et donc, le verbe, ça ne sert pas à avancer, ça sert à consacrer. Et donc, tout ça oui. fait que, que sur la forme, ça a inquiété. Maintenant, je pense que sur le fond, Emmanuel Macron a raison.
Natacha.
Mais je pense que la forme doit inquiéter ceux à qui s'adresse Emmanuel Macron. Tout le problème est de savoir ce que lui veut en faire. C'est-à-dire, cette façon d'utiliser le verbe pour mettre les pieds dans le plat, pour, au fond, obliger à une rediscussion, ne me semble pas en soi problématique. Ce qui est problématique, c'est de le faire sans avoir prévu le coup d'après. Or, on n'arrive pas pour l'instant à savoir si Emmanuel Macron prévoit réellement le coup d'après ou s'il geste juste sa grenade au milieu des relations internationales pour voir ensuite dans le champ de ruines ce qui va en sortir. Ce qui est là, pour le coup, totalement irresponsable. En revanche, s'il s'agit de dire que nous allons braquer parce qu'il faut le faire, parce que le consensus mou actuel est en train de détruire les pays de l'Union européenne, là ça me semblerait intelligent, mais ça nécessiterait de se trouver des alliés, de se trouver des points d'appui et d'avoir réfléchi à la question de savoir jusqu'où on veut aller dans la rupture. Je pense que si Emmanuel Macron avait en tête une nouvelle sortie de l'OTAN, alors sa prise de position serait intéressante puisqu'elle serait un préalable. Ça nécessiterait
évidemment... Vous pensez à une vraie sortie de l'OTAN?
Je pense à une nouvelle posture gaullienne. Si réellement c'était cela, on peut trouver que c'est une des façons de gérer aujourd'hui l'impérialisme américain, la prise en étau de l'Europe entre les États-Unis et la Chine, et ce serait une façon de répondre et de réinsuffler une vision gaullienne dans les relations internationales. Ça, on peut considérer que c'est nécessaire, ou alors on peut considérer que c'est une folie, peu importe. Mais les paroles d'Emmanuel Macron ne valent que si derrière il y a une réflexion de cet ordre-là, c'est-à-dire derrière une façon aussi de s'appuyer sur certains pays d'Union européenne qui pourrait avoir intérêt à cela, une façon de renouer réellement le dialogue avec la Russie. Or, pour l'instant, à part Emmanuel Macron, en France, personne n'a l'air convaincu, puisque au Quai d'Orsay, on a actuellement des gens qui sont plutôt des atlantistes complets et qui ont été profondément bousculés par son discours sur l'État profond. Donc, il y a le problème d'Emmanuel Macron, c'est que c'est qu'on a parfois l'impression que la parole ne vaut que pour elle-même et qu'il s'agit avant tout de bousculer.
Gilles,
un accord et un désaccord. L'accord, c'est que la question de savoir quel est le coup d'après, après le lancement d'une grenade découpillée, la question se pose, elle se pose pas seulement sur l'OTAN en état de mort cérébrale.
Mais sortir de l'OTAN, c'est une vraie question, nécessaire ou folie, disait Natacha.
Elle se pose aussi sur les 3% d'un autre temps, elle se pose aussi sur l'élargissement et le refus de l'élargissement du début de la procédure de négociation avec la Macédoine du Nord ou l'Albanie. Donc à chaque fois, grenade découpillée, la question de savoir quel est le coup d'après est une bonne question. En revanche, désaccord, jusqu'où on ne peut pas dire qu'on ne sait pas jusqu'où veut aller Emmanuel Macron. Il suffit de l'écouter. Il suffit de l'écouter parce que pour le coup, il dit les choses. Il ne veut pas sortir de l'OTAN. Il veut qu'il y ait un pilier européen, une défense européenne, une autonomie stratégique. Et il a raison de penser ça parce que par rapport à ce qu'était l'OTAN au moment de sa création, le monde a changé, les États-Unis ont beaucoup changé, la Turquie a changé et que ces questions-là se posent dans des termes différents.
Natacha, d'une phrase.
Je suis d'accord avec l'idée de ne pas vouloir sortir uniquement de l'OTAN, mais en fait de construire une véritable indépendance européenne. Mais encore faut-il s'en donner les moyens. Alors, Cela dit, un point que nous n'avons pas abordé dans les différents éléments que vous avez cités, Gilles, il y a aussi la question de la fameuse taxe GAFAM, parce que la grosse colère de Donald Trump, là, vient aussi de cela. Et cette taxe GAFAM, pour le coup, est une prise de position extrêmement intéressante d'Emmanuel Macron, qui essaye de forcer le multilatéralisme par un élément d'unilatéralisme. C'est-à-dire qu'en gros, on rentre dans le rapport de force, on le fait nous-mêmes en espérant entraîner les autres. Tout le problème est de savoir comment, encore une fois, on se crée des alliés. Visiblement, Angela Merkel n'a aucune intention de nous suivre. Donc Emmanuel Macron doit trouver des alliés ailleurs. Il y en a d'autres qui sont possibles en Espagne, en Italie, au Danemark même. Il y a des choses à creuser de ce point de vue-là. Or, on ne voit pas Emmanuel Macron chercher ce type d'alliance. C'est en ça que je dis qu'il ne réfléchit pas au coup d'après.
Sujet suivant.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Les résultats sont moyens, mais ils sont stables. Il faut arrêter de raconter que le niveau baisse. Ça n'est pas vrai. Il faut cesser le catastrophisme. Ça use les profs. Ça pose des problèmes de recrutement, de jouer avec les dénonciations permanentes. La situation reste stable.
L'enquête PISA, décryptée par Roland Gouagou, qui est enseignant-chercheur, spécialiste de la lecture, et qui était l'invité du journal de France Inter ce mardi. L'éducation, c'est un sujet que vous connaissez bien, Natacha. PISA, programme international pour le suivi des acquis des élèves, et c'est la référence en matière de performance scolaire qui s'était maintenant, ça fait deux décennies qu'elle s'est imposée à l'échelle mondiale. La France est 17e position parmi les pays de l'OCDE. Est-ce que vous partagez ce diagnostic qu'on vient d'entendre, à savoir que le problème n'est pas de savoir si le niveau baisse, ça n'est pas vrai. En l'occurrence, les résultats des élèves français sont moyens et stables.
Alors, Roland Gouagou est un des inspirateurs des méthodes qui sont actuellement utilisées et depuis quelques décennies pour l'enseignement de la lecture. Donc je comprends qu'il ne veuille pas admettre qu'il y a un problème. En l'occurrence, si on regarde sur les performances en lecture, justement, les performances des élèves français sont en baisse. Là où ça se maintient, c'est sur les mathématiques et les sciences. Mais surtout, au-delà de ça, l'intérêt de l'enquête PISA depuis 20 ans, c'est qu'elle a obligé à regarder la réalité en face. Parce que des gens comme Roland Gouagou ou d'autres, il y a 20 ans, nous disaient « Non, non, mais non seulement le niveau ne baisse pas, mais il monte. Tout va bien. » Or non, tout ne va pas bien. Étant donné la place de la France, étant donné les moyens que nous mettons dans l'éducation, nos résultats ne sont pas bons. Et surtout, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont profondément inquiétants, en particulier le fait que la France, je le dis assez souvent à ce micro, je le redis, est un des pays les plus inégalitaires. En gros, derrière nous, pire que nous, il y a le Luxembourg et Israël. Mais en France, votre destin scolaire est dicté par votre classe sociale. C'est totalement inacceptable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'école échoue à apprendre des choses à des enfants. Donc ceux qui ont dans leur famille de quoi compenser, ceux qui ont un capital culturel s'en sortent, et ils s'en sortent très bien. Il y a un petit groupe de très bons élèves qui est toujours stable et qui va bien. En revanche, pour les autres qui n'ont que l'école comme richesse, eh bien ça ne marche pas. Et
Gilles,
c'est ça qui est honteux.
Gilles Finkelstein.
Oui, pour prolonger ce que dit Natacha, ce que montre cette nouvelle vague de l'étude PISA, c'est, cela a été dit, une stabilité. Il n'y a pas eu un choc PISA comme il y a pu y en avoir en France ou en Allemagne il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est une stabilité, et c'est une stabilité à un niveau qui est un niveau moyen. Et une nouvelle fois, même si la situation s'améliore un peu, une nouvelle fois, ce qui est mis en lumière, c'est cette question des inégalités. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est intéressant. Si le niveau est moyen, ce n'est pas parce que si vous prenez, si on a une moyenne de 10, vous avez 3 élèves qui ont 10, la moyenne est à 10.
Ouais.
Notre problème n'est pas celui-là. Si nous avons une moyenne de 10, c'est qu'il y en a un qui est à 10, un qui est à 18 et un autre qui est à 2. Ça fait la même moyenne, mais la distribution n'est pas la même.
Justement,
notre problème principal,
chiffre,
c'est qu'il y a 20% des élèves, 20% des élèves qui, les plus défavorisés, ceux qui entrent à l'école avec le moins de moyens, qui sont le plus en difficulté. Le cœur du problème français aujourd'hui est celui-là.
2% des jeunes socialement défavorisés se trouvent parmi les élèves les plus performants. 2% seulement. Natacha, est-ce que vous diriez très simplement, le niveau continue de baisser malgré ce que dit l'enquête PISA ?
Alors, il faudrait s'intéresser plus finement à la façon dont cette enquête est faite, au type de questions qui sont posées, aux méthodologies, c'est-à-dire sous forme de QCM, etc. Bon, la question n'est pas là. Je reprends ce que disait Gilles. Il y a aujourd'hui des enfants qui sont dans un état absolument catastrophique et ce sont les plus défavorisés, les plus pauvres. Alors, on peut trouver toutes les explications du monde. En général, quand on commence à dire ça, ah oui, mais il y a les écrans, il y a les difficultés de concentration, etc. Ou alors, on explique que c'est parce que le système français serait élitiste et donc il ne favoriserait que les bons élèves, il ne fonctionnerait que pour eux. En fait, il y a un problème de méthode qui fait que à niveau social à peu près équivalent, à, disons, typologie des pays équivalentes, la France ne s'en sort pas bien et il y a des pays qui, eux, ont repris en main les choses. Une autre donnée qui ressort des enquêtes PISA, c'est par exemple les problèmes de discipline. Nous oui. sommes un des pires pays en matière de discipline. Mais un enfant ne peut pas apprendre correctement quand il n'y a pas de calme en classe. Or ça, c'est bien une question d'apprentissage, de formation des profs. C'est pas de leur faute, c'est une question de formation. Ça vient de l'ensemble du système, de ce qui leur est imposé comme type de méthode.
Gilles n'a pas l'air complètement d'accord.
C'est tout ça qu'il faut revoir.
Gilles.
Je suis partiellement d'accord. C'est un des points qui est mis en lumière par l'étude PISA, c'est la discipline. Il y en a d'autres. La formation des enseignants, Natacha vient de l'évoquer. Les matériels des établissements qui sont plus déficients qu'ailleurs. L'absence de coopération entre les acteurs de l'éducation. Une plus forte autocensure des élèves, notamment ceux des milieux défavorisés. Et une plus faible mixité des établissements. Donc, c'est un ensemble. Je crois que la principale conclusion qu'on peut en tirer en termes d'action, c'est d'abord continuer à mettre l'accent sur les inégalités à la racine, investir davantage dans le primaire. C'était fait par le gouvernement précédent, c'est fait par ce gouvernement avec des moyens différents, mais il faut poursuivre. Et la deuxième conclusion, c'est, et ça fait le lien avec la question du mouvement social, revaloriser le statut, la carrière des enseignants. On voit qu'il y a un lien entre la qualité de l'éducation, la qualité des éducateurs et l'absence de reconnaissance. Et donc, c'est le sujet sur lequel il faut, je crois, investir dans les prochaines années.
Midi 20, France Inter, à suivre dans le grand face-à-face, le débat avec le politologue Pascal Perrineau.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Aujourd'hui, faut arrêter de nous mettre la pression, faut respecter un peu le travail des gens.
J'ai peur et puis j'ai aussi peur pour l'avenir, pour nos enfants quoi.
Au-delà des retraites, il y a aussi effectivement le modèle de société qu'on propose à nos enfants.
C'est inadmissible dans certains corps de métier de demander à travailler à terme 2 ans ou 2 ans et demi de plus et avec une retraite qui va baisser quoi. On joue vraiment gros, c'est pas l'impression, on joue gros quoi. Faut pas lâcher le morceau hein, faut pas lâcher.
Des manifestants un peu partout en France au micro de France Inter, c'était jeudi, évidemment jeudi 5 décembre, et la démocratie sociale en question aujourd'hui dans le grand face-à-face. Et si nous étions en train d'assister ces jours-ci à la revanche du vieux monde, celui des syndicats, de forme de lutte qu'il aurait fallu ranger au musée, et si nous n'en avions pas fini avec le monde ancien? Pour en débattre, l'un des grands spécialistes de la France politique, professeur à Sciences Po, il a marqué des générations d'étudiants, observateur privilégié du mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il en était l'un des 5 garants au moment de la constitution du débat national. Et il publie Le Grand Écart, chronique d'une démocratie fragmentée chez Plomb. Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter, ancien patron du Cevipof. Vous publiez un livre passionnant. On va revenir sur ce Grand Écart et sur cette démocratie fragmentée que vous décrivez. Mais d'abord, partons tout simplement de ce qui se passe en France depuis le 5 décembre, depuis jeudi dernier. Est-ce que c'est la revanche du vieux monde, pour le dire très simplement ?
Comme toujours, il y a une part apparemment du vieux monde qui revient, ne serait-ce que l'acteur syndical, qui continue cependant dans toutes les enquêtes à faire l'objet, comme pour les partis, hein, d'une profonde méfiance. Mais quand vous regardez en détail, derrière cette apparence de retour du vieux monde, il y a plusieurs éléments de nouveauté qui sont là. D'abord, si les syndicats sont rentrés dans ce mouvement, c'est sous la pression très très forte de la base. Il y a une dimension basiste dans ce mouvement social, comme il y avait une dimension basiste, sans exutoire, au travers d'organisations, dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc les deux mouvements ont quelque chose.
Ils ont quelques points communs, on va y revenir.
Ils ont quelques points communs. Ces mouvements sociaux extrêmement horizontaux, construits aussi sur de la méfiance par rapport aux organisations dites représentatives. Deuxième élément de nouveauté, on parle, bien sûr, on a tous en tête le fameux mouvement de novembre-décembre 95, mais à l'époque, il y avait quelque chose de très différent. C'est que ce mouvement social pouvait trouver un exutoire dans une opposition politique qui, d'ailleurs, en 95, allait l'emporter aux législatives un an et demi plus tard. C'était le retour de la gauche au pouvoir. Aujourd'hui, il y a une grande différence. Quel est l'exutoire politique de ce mouvement social? Personne n'est capable, au jour d'aujourd'hui, de répondre. Et s'il y a un exutoire politique, est-ce que ce serait l'exutoire de la gauche? Quand vous regardez l'état de faiblesse de la gauche politique aujourd'hui, l'exutoire politique serait certainement d'une nature différente sur laquelle il faut s'interroger.
On va y venir. Alors, justement, Natacha.
Oui, je pense que la question est en effet qu'il n'y a plus d'exutoire politique, mais il faudrait se demander pourquoi. En 1995, c'est très intéressant, il y avait une pétition d'intellectuels menée par Pierre Bourdieu pour soutenir le mouvement. Il y avait une pétition d'intellectuels qui soutenait le plan Juppé. Et entre les deux, dans l'événement du jeudi, on peut retrouver cette interview de Cornelius Castoriadis qui expliquait pourquoi il n'avait signé aucune des deux pétitions. Et que disait-il? Il disait le problème est que il y a 3 ans, il y a eu la signature de Maastricht et en fait, cela modifie les règles du jeu.
1995 et Maastricht,
voilà, 92. Et en fait, nous avons fait en sorte de ne plus avoir de politique monétaire, de politique budgétaire. Donc, nous allons vers du chômage de masse. Bon, je résume largement ce que disait Castoriadis, mais cette idée est importante. Pourquoi? Parce que ce qu'on retrouve dans le livre de Pascal Perrineau, cher Pascal, c'est vous expliquer que, en gros, tous ces différents moments, Maastricht, 2002, 2005, sont des moments où on a une radicalisation entre l'ouverture et la fermeture. Toute une part de l'opinion française qui veut la fermeture, le repli, etc. Or, en fait, en renvoyant cette demande démocratique à du repli et de la fermeture, vous empêchez qu'il y ait une sortie politique des choses. Or, ce que nous montre ce mouvement
aujourd'hui, alors, laissez Pascal Perrineau vous répondre.
C'est le fait qu'il y a plus qu'une aspiration sociale, une aspiration démocratique, une colère face à un système qui semble bloqué.
Pascal Perrineau.
Vous savez, Natacha, le fait de parler de fermeture n'est pas une stigmatisation. Je ne suis pas le premier à parler de la société ouverte et de la société fermée. D'autres, plus prestigieux que moi, en avaient parlé avant moi. Là, il s'agit de dire qu'est en train de se mettre en place, derrière ou à côté du clivage gauche-droite, un clivage entre ce que j'appelle la société ouverte et la société du recentrage national. C'est-à-dire des gens de gauche et de droite qui considèrent que l'avenir est au protectionnisme économique, au protectionnisme politique, au protectionnisme culturel pour certains.
Mais c'est faux.
Alors, non, c'est pas faux du tout, parce que quand vous regardez les enquêtes, c'est bien cela qui se passe.
Non, c'est une demande de recentrage démocratique.
Mais ça peut aller avec un recentrage démocratique. Il y a plusieurs conceptions de la démocratie qui sont à l'œuvre. Et on voit bien comment aujourd'hui, et c'est un des problèmes que j'aborde dans mon livre.
C'est le grand écart entre différentes formes de démocratie. La démocratie directe réclamée par les Gilets jaunes, la démocratie du débat, de la délibération, et la démocratie représentative, celle dont peut se revendiquer par exemple Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle, Pascal Perrineau.
Tout à fait. Quant à
et on va laisser la parole
au parallèle avec 1995, ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu dans le monde il y a 2 jours, une pétition d'intellectuels soutenant le mouvement social, comme cela avait été le cas. Ce qui est nouveau, puisqu'on pense un peu les éléments de nouveauté, c'est que du côté...
Moi, je voyais surtout revenir de l'ancien, mais... Voilà.
Non, mais du côté d'Emmanuel Macron, ça, c'est une nouveauté. Il n'y a pas le soutien que certains avaient cru devoir apporter aux réformes portées par Alain Juppé.
Gilles Finkelstein.
Oui, il y a un côté réplique au sens du tremblement de terre, réplique de tremblement de terre par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Je crois qu'on l'avait évoqué ici même la semaine dernière. Il y a des éléments de nouveauté, vous dites absence d'exutoire, je dirais absence de débouché politique. Nouveauté aussi au sens où c'est une contestation sans texte. Pour l'instant, il n'y a pas de texte, mais il y a
Par différence avec 1995.
Par différence avec la plupart des mouvements sociaux. Généralement, on demande le retrait d'un texte qui existe. Là, le mouvement
C'était
se fait.
C'était pas le cas du mouvement des Gilets jaunes.
Avant même le texte. Bon. Mais Je voudrais revenir sur un point, parce que, oui, il y a sans doute...
Et j'aimerais que vous répondiez quand même à ma question sur cette revanche du vieux monde malgré tout. Les centrales syndicales qui se rappellent aux bons souvenirs de l'exécutif, les manières de se mobiliser, de protester, de faire grève, de manifester par exemple avec des cortèges qui sont encadrés, avec des mots d'ordre clairs et des slogans, ça se faisait quelque temps qu'on ne l'avait pas vu avec cette force-là dans le paysage politique français.
Ouais, moi j'avais dit, je n'ai jamais été totalement convaincu par ce clivage entre le nouveau monde et l'ancien monde, donc le fait que l'ancien monde soit encore là, ça ne me paraît pas très, très surprenant. Mais avant la demande de démocratie, je trouve qu'il y a une grande interrogation, et c'est ça qui doit être levé, sur ce qu'est la justice et sur ce qu'est la justice sociale. Il y a une ambiguïté depuis le début de ce mouvement pour savoir si l'objectif de cette réforme est un objectif financier ou un objectif d'équité. Il semble que cette ambiguïté-là soit en passe d'être levée et que les objectifs paramétriques d'équilibre financier soient un peu remisés.
On en saura plus la semaine prochaine.
On en saura plus la semaine, mais les indications sont là. La question donc reste ouverte, c'est si c'est une mesure, une réforme de justice, de quelle justice parle-t-on ?
On va y venir, Gilles, parce que je veux malgré tout entendre Pascal Perrineau sur le retour des grandes centrales syndicales et de ces mobilisations, puisque vous rappeliez dans votre livre qu'aujourd'hui, il n'y a que 27% des Français qui déclarent avoir confiance dans les syndicats, ce qui est extrêmement faible.
Oui, bien sûr, c'est extrêmement faible. Tous les corps intermédiaires aujourd'hui, quelle que soit leur nature, sont dans une crise de confiance absolument phénoménale.
Ils ne sont pas si affaiblis.
Voilà, mais ils ne sont pas si affaiblis. Les seuls qui échappent au jeu de massacre, ce sont les maires et les communes. D'ailleurs, on pourra y revenir. Mais on est bien, en effet, dans une situation de crise. Vous savez, c'était le marxiste italien Gramsci qui disait « Qu'est-ce que c'est que la crise ? C'est quand le vieux monde meurt et que le neuf hésite à naître. » Donc, il y a bien des éléments de vieux monde et de nouveau monde qui travaillent la société française, et je crois personnellement que on est en fin d'un cycle démocratique. C'est-à-dire au fond que la démocratie représentative, articulée et adossée à un État social redistributeur qui avait les moyens de la redistribution et qui se met en place après la Seconde Guerre mondiale, ce cycle démocratique qui s'est ouvert est en fin de course. Il est épuisé. Et d'ailleurs, on le voit, les Français aujourd'hui s'interrogent sur la démocratie. Et donc, le grand défi de l'heure, c'est comment rentrer dans un deuxième cycle démocratique, comment, ce que j'appelle dans mon livre, démocratiser la démocratie, parce que si ça n'est pas cette voie qui est explorée, ce sont d'autres voies du type démocratie libérale, du type régime autoritaire qui pourront être explorées, et les forces qui pourraient soutenir ce type d'alternative sont déjà à l'œuvre dans la société française.
Ah. Natacha Polony.
C'est très intéressant parce que là nous avons deux analyses totalement contradictoires, et donc c'est assez intéressant de les confronter. Je pense qu'il y a une erreur majeure à croire qu'il y a un cycle unique qui part de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui et qui s'arrêterait là ou qui verrait sa limite. Je pense que la démocratie telle que la décrit Pascal Perrineau, fondée sur l'État-providence, etc., a été totalement détruite par le cycle néolibéral qui débute à la fin des années 70 et qui s'est étendu petit à petit et dont nous voyons aujourd'hui les effets absolument délétères. Et ces effets délétères, en fait, sont ceux qui ont abîmé la démocratie. Pourquoi ? Parce que pendant 40 ans, ce qui a été mis en place, ce sont des instruments technocratiques de contournement de la démocratie. En fait, à travers des instances supranationales, des instances qui sont des instances de à la fois juridiques, techniques, etc., commerciales, on a fait en sorte que le vote démocratique n'ait plus d'effectivité, n'ait plus de pouvoir agissant sur le système économique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les citoyens s'en sont rendus compte. Et que donc, ils sont méfiants vis-à-vis de la démocratie, non pas vis-à-vis de la démocratie en général, mais vis-à-vis de ce contournement de la démocratie. Et nous sommes au bout de ce cycle néolibéral qui a montré son inefficacité, sa force de destruction. Les gens qui étaient dans la rue le 5 décembre, ils sont là, évidemment, à défiler autour des retraites, mais pas seulement. C'est pas un hasard si les plus mobilisés, ce sont les enseignants, ce sont les personnels hospitaliers, c'est-à-dire tout ce qui relève de la dimension de l'État.
Alors,
de la
laissez présence Pascal
des
Périne
services
répondre,
publics,
Natacha.
De tout ce qui normalement doit structurer un pays.
Pascal Perrineau.
Je crois, pour poursuivre en effet le regard que Natacha Polony vient de jeter sur l'état de la démocratie aujourd'hui, que tout comme la démocratie doit être réinventée, l'État-providence doit être lui aussi réinventé. Et on peut partager son analyse quant à certains éléments de néolibéralisme qui ont pu mettre à mal le compromis qui avait été établi après la guerre. Mais je crois qu'on ne peut pas simplement rabattre la crise de la démocratie sur des facteurs sociaux et économiques. Deuxième remarque, il y a bien longtemps, un collègue de Sciences Po, Guy Hermet, avait écrit un livre qui était passé inaperçu, qui s'appelait « L'hiver de la démocratie », dans lequel Guy Hermet, grand spécialiste d'ailleurs des dictatures, des régimes autoritaires et des sorties de dictature, disait la chose suivante. On considère, de manière un peu naïve, que la démocratie est forcément notre avenir. Quel est notre quotidien et quel est notre avenir? Et il disait, quelle erreur! Nous sommes peut-être en effet dans un hiver de la démocratie parce que certaines forces sont à l'œuvre au cœur de nos sociétés qui ne sont pas des forces démocratiques. Il reprenait d'ailleurs des éléments que Natacha vient de mentionner. La technocratie, l'idée qu'au gouvernement des hommes faut substituer des gouvernances qui sont dans les mains d'autorités administratives qui n'ont aucune légitimité démocratique, et puis bien sûr la montée du populisme qui certes a un terrain socio-économique, mais pas seulement. Il suffit de s'interroger par exemple sur la bonne santé du populisme en Suisse, qui j'ai l'impression n'est pas un des pays les plus à plaindre et les plus pauvres d'Europe.
On va revenir en France, Gilles Finkelstein.
Oui, je partage ce que dit Pascal Perrineau. Je crois que ça serait une erreur d'avoir une vision exclusivement économiciste de la montée des populismes. Et que la crise de la démocratie est plus profonde que ça, y compris, contrairement à ce que disait Natacha à l'instant, il y a une méfiance sur le principe démocratique lui-même qui est en train de monter. Je cite régulièrement ce chiffre-là dans les enquêtes que la Fondation Jean Jaurès réalise, en l'occurrence avec le CVPOF. Est-ce que vous considérez que la démocratie est le meilleur des systèmes ou est-ce qu'un autre système pourrait s'y substituer? Vous avez maintenant 36% de Français qui disent un autre système et on a à peu près les mêmes chiffres dans la plupart des autres démocraties occidentales. Pascal Perrineau disait, nous arrivons à une fin de cycle. Nous avons aujourd'hui une démocratie qui est à la fois beaucoup plus instable, avec une volatilité électorale considérable, qui est beaucoup plus informe. Il n'y a pas un clivage qui structure le débat, il n'y a pas une question qui domine, il y a un espace public qui est de plus en plus éclaté et qui est de plus en plus explosif en raison à la fois de la montée des populismes, de la montée de la défiance, de la montée de la violence. Est-ce que cet état peut être un état durable? Point d'interrogation, question à Pascal, parce que je reprends la citation de Gramsci que vous citiez tout à l'heure. La fin de cette citation, ce n'est pas seulement quand la crise c'est le moment où le vieux est mort et où le neuf n'arrive pas à naître. La fin de la phrase, c'est « et dans ce clair-obscur peuvent naître les monstres ».
Voilà. Pascal Perrineau.
En effet, dans ce clair-obscur peuvent naître des monstres dont on voit qu'ici et là, ils sont à l'œuvre. Ce qui se passe au cœur même de l'Union européenne en termes de menaces sur l'état de droit dans certains pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale le montre. L'évolution de ce qu'a été la fragile démocratie turque le montre. Ce qui se passe au Brésil avec la victoire de Bolsonaro, dont ça n'est pas une injure de dire qu'il n'a pas une véritable culture démocratique et même civique, le montre. Donc, il y a, un danger, surtout que ce que vient de dire à juste titre Gilles Finkelstein, cette demande qui n'est pas négligeable, plus d'un tiers de la population française qui envisage d'autres horizons que la démocratie, quand vous regardez en détail par génération, ce sont chez les jeunes et les moins de 30 ans qu'il y a le plus cette demande. Ça peut dessiner aussi notre avenir.
J'aimerais aussi qu'on revienne en France, en l'occurrence, et au mouvement social qui est en train de se jouer aujourd'hui, puisque vous parlez des grèves d'opinion, comme vous les qualifiez, Pascal Perrineau, dans votre livre, à savoir des mouvements, comme le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui ont été soutenus par la majorité de la population dans les sondages, on l'a vu et on le voit encore. Aujourd'hui, il y a encore cette très forte protestation d'opinion, puisque la majorité des Français soutient ceux qui font grève, ceux qui se mobilisent. En quoi est-ce que ça, c'est un problème pour la démocratie, d'après vous ?
Alors, d'abord, c'est une évolution de la démocratie qu'on a appelée la démocratie du public ou la démocratie d'opinion. Et Michel Rocard, lorsqu'il était Premier ministre, en avait fait la théorie, d'ailleurs, de cette démocratie d'opinion. Il disait, au fond, la démocratie représentative, aujourd'hui, doit faire avec cette démocratie d'opinion, cette démocratie sondagière. Ce qui fait la force de nombreux mouvements sociaux, même lorsqu'ils ne mobilisent pas énormément dans la rue, et c'était le cas des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, si l'on prend la manifestation la plus importante, ça a rassemblé 300 000 personnes. Alors c'est important, mais enfin on est très loin des records au-dessus du million de manifestants enregistrés en 84, en 2003, en 2010, d'ailleurs sur les dossiers des retraites.
Et jeudi dernier.
Et jeudi dernier, on est à 850 000.
Sur le comptage,
on est à 850 000, et il faudra voir si mardi on arrive au million et on dépasse le million. Et c'est vrai, ce qui fait la force de ces mouvements sociaux, c'est certes la mobilisation dans la rue, mais pas uniquement. Tant qu'en effet, une majorité extrêmement confortable de Français disent au fond, nous sommes en soutien ou en sympathie avec le mouvement, la marge de manœuvre du pouvoir politique est extrêmement ténue.
Natacha Polonia.
Petite parenthèse sur le comptage. Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques années, il y a un système de comptage qui n'existait pas avant. Et ce qui a permis de faire baisser sensiblement les chiffres que l'on retient sur les mouvements sociaux. Parce que on s'est aperçu que les chiffres que donnait la préfecture de police étaient les plus proches de la réalité, que c'est pas forcément
les chiffres donnés par les... Non mais ne rentrons pas dans cette bataille de chiffres.
Non, c'est très important parce que si on vient dire que les gilets jaunes ne représentaient rien, seulement 300 000 et qu'on les compare
aux manifestations de 84. Non, parce qu'Elperino lève les yeux au ciel en disant que ce n'est absolument pas ce qu'il avait dit.
Non, mais il faut quand même s'entendre sur qui compte et comment. Premier point, ça c'est une parenthèse. Deuxième point, le problème n'est pas, selon moi, la question des grèves d'opinion et de la démocratie d'opinion. Ce qui a surgi depuis un an, et dont le mouvement social d'aujourd'hui est une réplique, en effet, c'est la potentialité d'un bloc majoritaire de contestation. Et c'est ça qui a ébranlé réellement le système depuis un an, qui a fait extrêmement peur et où on a vu un réveil de la haine de classe des deux côtés et parfois du mépris de classe d'une façon assez marquée. Il y a eu une brutalisation, une violence des réactions des deux côtés parce que là, on s'apercevait tout à coup que quelque chose surgissait qui pouvait être majoritaire. Et juste pour préciser, pour revenir 30 secondes, si on fait la liste des pays qui sont fragilisés par des mouvements populistes, la Turquie de Recep Erdogan, qui nous a expliqué...
Bon, mais on va revenir en France.
Juste
restons en France,
mots,
Natacha.
Deux mots, Ali.
Parlons de la France aujourd'hui.
La Turquie de Recep Erdogan, qui nous a expliqué qu'elle était formidable et qu'il fallait l'accueillir dans l'Union Européenne, sinon les soutiens du néolibéralisme.
J'aimerais
le Brésil
qu'on parle de ce qui se passe en France, Natacha.
Autoritaire et néolibéral. Il y a là quelque chose qui nous raconte l'évolution du néolibéralisme et ça a des conséquences
dans l'analyse que l'on fait de ce
qui se passe aujourd'hui
Pascal
en France. Démocratie qui est tout simplement la méfiance vis-à-vis de la démocratie, elle est la conséquence du fait que cette démocratie a été abîmée. C'est pas juste un constat comme ça, les gens n'aiment plus la démocratie.
Alors, je ne crois pas que, si vous voulez, même si ça a pu jouer un rôle, tout doit être rejeté sur ce néolibéralisme, d'ailleurs, dont il faudrait préciser ce que l'on entend par néolibéralisme. Personne ne peut
préciser
que dans toutes nos démocraties représentatives est née une force, la démocratie d'opinion, la démocratie du public, disait Bernard Manin, qui est tout simplement la manifestation de la crise des corps intermédiaires. Une démocratie représentative, ça vit avec des corps intermédiaires, partis, syndicats, extrêmement solides, reconnus, faisant l'objet d'une confiance. Quand ils disparaissent, eh bien, l'opinion sondagière prend la place laissée vacante par ces corps intermédiaires. Quant à la naissance d'un bloc contestataire de contestation majoritaire, parlons-en, c'est tout à fait possible. Je partage le sentiment de Natacha Polony. C'est la thèse, au fond, que retient aujourd'hui Jérôme Sainte-Marie dans un livre intéressant, Bloc contre Bloc.
Spécialiste des sondages. Mais ce serait une traduction politique ?
Écoutez, prenons par exemple le dernier sondage d'intention de vote pour la présidentielle, projetons-nous dans l'avenir, de 2022. Il faut le prendre avec énormément de prudence, parce qu'on est loin, mais enfin, ça donne une idée des rapports de force. Marine Le Pen, dans un second tour, contre Emmanuel Macron, serait à 45 45% des suffrages exprimés. Donc 45%, vous voyez, on est plus très loin de la barre des 50%. Comment est-elle passée de 33%, son score au deuxième tour de 2017, à 45% aujourd'hui en termes d'intention de vote? C'est tout simplement qu'est en train, en effet, de se cristalliser ce qu'on pourrait appeler un bloc populiste, où en particulier les électeurs qui se retrouvaient derrière Mélenchon sont aujourd'hui, en termes d'intention de vote, en majorité, ils choisiraient au second tour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Et au fond, je termine très rapidement, ce dont il faut très bien prendre conscience, et on le voit dans le mouvement social d'aujourd'hui, c'est que l'antimacronisme devient une machine à produire du vote aussi et peut-être plus efficace que l'anti-lepénisme qui a rendu des services à la droite et à la gauche.
On va laisser malgré tout la parole à Gilles Finkelstein. D'un mot, Natacha.
D'un mot, tout le problème de cette analyse, c'est que ça ouvre un boulevard à Marine Le Pen et que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de proposer une remise en cause de ce système qui est de moins en moins démocratique sans faire cadeau à Marine Le Pen du monopole de la contestation, c'est-à-dire Gilles, de proposer une opposition qui soit une opposition démocratique et raisonnable.
La question n'est pas seulement de savoir si ça ouvre un modèle, la question est de savoir si elle est juste ou si elle n'est pas juste. Moi, je suis à ce stade, peut-être que les choses vont dans ce sens-là, mais à ce stade, je suis extrêmement prudent et extrêmement même interrogatif sur cette enquête, parce qu'on a eu à peu près les mêmes. Marine Le Pen à 45%, nous l'avons eu en 2016. On l'avait eu en 2016. Et donc, on est très très loin. Et moi, tout ce que je vois quand j'étudie de près l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, en termes de valeur, il est extrêmement, et il demeure extrêmement éloigné de celui de Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un bloc de contestation qui même puisse être majoritaire, mais la question est de savoir est-ce qu'on reste dans un bloc négatif ou dans un bloc qui peut avoir une dynamique et se reconstituer. C'est ce sur quoi je suis plus interrogatif.
Voilà. Pascal Perrineau.
Mais je crains, mon cher Gilles, que le vote sur les valeurs dans un second tour, soit écrasé par le vote de rejet. Déjà en 2017, toute une série de personnes qui vont voter au second tour pour
Quand
Emmanuel Macron...
Quand vous parlez de
Macron,
rejet, c'est rejet d'Emmanuel Macron.
Voilà. Mais ceux qui votaient pour Emmanuel Macron en rejetant Le Pen en 2017, ils ne votaient pas avec leurs valeurs, pour beaucoup. Ils votaient tout simplement pour rejeter Marine Le Pen, les électeurs qui avaient voté pour Benoît Hamon, les électeurs qui avaient voté pour Mélenchon, ne votaient pas avec leurs valeurs, ils votaient par rejet. Et pour aller plus loin, en effet, un sondage d'intention de vote, vous avez raison, tout ça est d'une fragilité. Mais écoutons ce que disait Jean-Luc Mélenchon dans la grande manifestation marseillaise du 5 décembre, c'était hier. Jean-Luc Mélenchon a dit que, voilà, Marine Le Pen, il se réjouissait du fait que Marine Le Pen ait appelé à la grève, mais il allait plus loin. Il disait en effet que Marine Le Pen évoluait vers l'humanisme. Bon, je veux dire, c'est tout de même...
Il le disait avec beaucoup d'ironie, en l'occurrence, et on a tronqué sa citation.
J'ai regardé attentivement, et puis il en remettait une troisième couche, en disant que les adhérents du Rassemblement National étaient bienvenus dans le mouvement social. Alors, c'est peut-être le pur fruit du hasard, mais enfin, le hasard,
Natacha.
Le drame, c'est d'avoir une lecture de ce mouvement social qui, immédiatement, débouche sur des calculs d'intention de vote sur la présidentielle de 2022. C'est-à-dire que, moi, j'ai le souvenir, même en janvier 2002, d'un sondage pleine une du Parisien. 64% des Français ne veulent pas d'un second tour Chirac-Jospin. Et juste en dessous, il y avait les sondages, premier tour, deuxième tour, avec deuxième tour Chirac-Jospin, pour qui allez-vous voter? Ce qui est quand même une contradiction absolue, mais ça ne dérangeait personne. Donc je crois que s'imaginer qu'il faut aujourd'hui analyser ce mouvement social en fonction du fait qu'il y aura forcément un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron en 2022, et qu'en gros... être dans l'antimacronisme aujourd'hui, ce serait préparer la victoire ou l'arrivée à 45% de Marine Le Pen. Je pense que c'est une façon d'empêcher que puisse surgir des idées politiques, c'est-à-dire de faire en sorte d'offrir à cette colère que nous voyons, qui est une colère qui aujourd'hui se renforce, lui offrir des débouchés politiques, des propositions, et ensuite on verra qui les incarne et on verra s'il y a la possibilité d'échapper à ce duel
préécrit.
Mais je crois que c'est une folie de réagir comme ça.
Une folie?
Non, une folie, je crois que c'est excessif. Moi, je me contente d'analyse avec les faibles moyens, peut-être qui sont les miens, mais je me contente de l'analyse. Je ne prépare pas la victoire de Marine Le Pen en 2022. On ne peut pas passer, si vous voulez, du registre de l'analyse la plus sereine qui soit avec les instruments d'observation dont on bénéficie aujourd'hui. Et de toute façon, la réponse, je vais vous dire, elle viendra des électeurs. On va voir, en effet, dans les deux ans qui viennent, on va voir comment les électeurs invente, si vous voulez, un débouché politique à ce que l'on peut ressentir, par exemple, dans le mouvement social.
Justement.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, l'état de la gauche française ne les place pas au premier rang de leur capacité à trouver un débouché politique à ce mouvement social.
Mais avant d'en arriver à la traduction politique de ce mouvement social, justement, Emmanuel Macron, face aux gilets jaunes, il était, alors je ne sais pas face à qui ou face à quoi, mais en l'occurrence face à un mouvement qui n'a pas eu de débouché politique. Aujourd'hui, il est face non pas à des partis qui pourraient incarner les oppositions, il est face à des syndicats. C'est assez particulier comme situation, Pascal Perrineau.
Alors, il est face à des syndicats, avec les syndicats.
Enfin, des syndicats, leur base et ceux qui se mobilisent avec eux.
On peut à un moment rentrer, et quand j'écoutais le Premier ministre, ça allait dans ce sens, on peut rentrer à partir du moment où, comme le disait Gilles tout à l'heure, on saura exactement la nature du projet, parce que là c'est un mouvement social avant projet. Donc une fois qu'on aura le projet, on verra si le mouvement social après le projet perdure au même niveau d'intensité qu'aujourd'hui, et on verra la capacité des acteurs syndicaux éventuellement à rentrer dans un processus de compromis. Très souvent ces mouvements sociaux, ça débouche sur quoi? Des accords Grenelle, des accords Matignon, etc. Il y a encore une fenêtre d'opportunité pour ce type d'issue.
Gilles Finkelstein.
Oui, il est face à des syndicats. On oublie quand même un syndicat qui est le premier syndicat français, qui est la CFDT, et qui reste dans, disons, une concertation, un dialogue possible avec le gouvernement, avec beaucoup de constance, disant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'objectif financier de l'objectif de justice. Dès lors que on dit que le premier objectif de cette réforme n'est pas un objectif financier, cela renvoie à la question que j'évoquais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une clarification, qu'il y ait un débat, qu'il y ait une philosophie de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, une réforme juste? Dans cet espace d'intervalle dans lequel on est entre le mouvement du 5 décembre et les propositions du gouvernement, je pense que c'est intéressant de s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour les Français, une réforme juste? Est-ce que ça veut dire une réforme?
C'est comme ça qu'elle est qualifiée par le gouvernement.
Oui,
on n'en connaît pas le détail, mais il dit que ce serait une réforme universelle.
Juste par rapport
et
à
équitable.
Quoi? C'est ça la question. Juste par rapport à quoi? Vous avez la justice intragénérationnelle, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même génération, et c'est ça l'objet de cette réforme, faire en sorte que tout le monde soit dans la même situation, quel que soit son statut. Vous avez une justice intergénérationnelle, c'est la solidarité entre les plus jeunes et les plus âgés. Vous avez une justice entre ceux qui ont le plus et ceux qui ont le moins, et donc des mécanismes de solidarité. La question est de savoir quelle est la justice que l'on veut promouvoir dans cette réforme, et je crois qu'il faut que le gouvernement clarifie aussi les questions sur ce point-là.
Je partage tout à fait.
Pascal Perrineau, puis Natacha Polony.
Je partage tout à fait ce sentiment. Je ne sais pas si ça vous avez vu cette enquête publiée dans le Journal du Dimanche, qui était extrêmement intéressante, où l'on interrogeait les Français sur le maintien du système de retraite actuel ou sur une réforme qui aurait la philosophie, je dis bien la philosophie, de la réforme actuelle et qui se traduirait par la disparition de ces dizaines et dizaines de régimes spéciaux qui se sont accumulés. Eh bien, les Français, à 76%, 3 Français sur 4, vous disent, nous, on veut une réforme en dehors de la philosophie du réforme du système actuel. Donc, il y a bien sûr le principe, mais il faudra aller plus loin, en particulier autour du principe de justice. Il considère que la réforme est plus juste que le maintien du système actuel. Simplement, en même temps, ils disent, mais ceux qui nous la proposent ne sont pas crédibles. Hein. Donc là, on retombe sur la fameuse question qu'on évoquait tout à l'heure de la défiance.
Oui, j'ai juste une phrase. C'est en dehors du système actuel, à une réserve centrale près, c'est que dans l'un comme dans l'autre, on est dans une retraite par répartition.
Natacha Polony. Oui.
Je rejoins Gilles sur un point. La question de la justice sociale est aujourd'hui absolument essentielle. Et ce qui se manifeste dans tous ces mouvements, c'est une demande de justice. Et en effet, il y avait la possibilité de faire passer une réforme des retraites si elle était inscrite dans une réflexion plus générale sur davantage de justice. C'est-à-dire que
elle était inscrite dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron.
La réforme des retraites doit être corrélée avec l'ensemble des mesures qui permettraient de réintroduire de la justice. Or, ce qui a péché, c'est qu'Emmanuel Macron, évidemment, a donné l'impression par différentes mesures et la première d'entre elles, la suppression de l'impôt sur la fortune ou sa transformation, il a donné l'impression que à aucun moment il ne se préoccupait de justice. Et ce qu'on entend dans tous les mouvements, par exemple les mouvements contre les traités de libre-échange, contre les choses comme ça, c'est toujours cette question de la justice.
Oui, mais qui doit la définir justement ?
Faussée. Eh bien, elle doit être définie collectivement.
Oui.
Le drame, c'est
qu'il y a eu une élection présidentielle.
Oui,
d'un mot, on va laisser la parole à Pascal Perrineau.
On vient de dire à l'instant que l'élection présidentielle s'était faite contre, et que beaucoup ont voté non pas pour un programme, mais pour empêcher le Front National de monter. Et elle est là, l'ambiguïté. Donc, mettons-nous tous ensemble autour d'une table, démocratique et symbolique, pour discuter de la question de la justice. Ce serait quoi, si c'est juste ?
Pascal Perrineau.
Alors, je crois que dans... par exemple, l'ouvrage Révolution d'Emmanuel Macron, il présentait, puisque ça n'était pas un programme, c'était beaucoup plus une déclaration d'intention, on voyait bien qu'elle était à l'œuvre, sa conception, lui, de la justice, et je dirais plutôt d'ailleurs de l'équité sociale que de la justice sociale au sens où on l'entend. C'était assez explicite et quand vous regardez certains éléments, par exemple comme la division des effectifs dans les classes, et particulièrement dans les classes du primaire, le plan de lutte contre la pauvreté dont plus personne ne parle, il y a des éléments qui s'efforcent de mettre en musique cette conception de l'équité sociale qui était celle du candidat Macron. Donc il ne faut pas avoir une lecture excessivement caricaturale.
Pas du tout, puisque justement, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître que ces éléments-là sont bons.
Mais j'aimerais juste savoir.
La pauvreté est pas mal, en effet, le dédoublement des classes. Ça n'est pas caricatural, mais
revenons à ce mouvement
social. Globalement, ça n'apparaît pas comme un système juste.
Puisque vous avez posé la question de la justice, Gilles, est-ce qu'aujourd'hui, on est face à deux légitimités qui s'affrontent ? Celle, la légitimité des urnes, celle dont peut se revendiquer le président de la République et la majorité présidentielle, et une autre légitimité, celle qui s'exprime aujourd'hui dans les mobilisations, dans les grèves dans la rue.
Non, on n'est pas face à deux, je crois pas qu'on soit face à deux légitimités. On est à la mi-quinquennat avec un président de la République qui est beaucoup plus affaibli, dont la dynamique propulsive est évidemment beaucoup plus faible aujourd'hui, a fortiori après le mouvement des Gilets jaunes, qu'elle ne l'était au lendemain de son élection, avec du temps qui a été perdu sur cette réforme, avec beaucoup d'ambiguïté, de flou, d'interrogation et d'inquiétude qui se sont fait jour. Et donc on est face à un rapport de force qui est un rapport de force classique. On pourrait dire, comme Natacha, que ça manque d'une réflexion générale et même d'une politique générale de la justice et que c'est ça qui explique les difficultés. Peut-être
pour doit l'exprimer ?
Peut-être pour partie. Mais est-ce que c'est seulement ça ? C'est ce que, en soi, la réforme des retraites ne pose pas des questions et n'explique pas aussi, est-ce que dans les différentes conceptions de la justice que j'évoquais, le simple fait que pour un certain nombre de Français, la situation soit plus difficile avant qu'après, n'est pas pour eux, en soi, un élément d'injustice, même si de manière collective, ça pourrait être une réforme plus juste.
Pascal Perrineau.
Alors, je voudrais dire aussi qu'on revient, il faut un peu dédramatiser ce qui est en train de se passer. On revient au fond à un trait très profond de notre culture politique, où contrairement à beaucoup de nos voisins européens, on ne change pas souvent au compromis, on change à l'affrontement. d'État de Michel Crozier le disait il y a bien de longues années. C'est très difficile dans la culture française de changer par un compromis, un peu à l'allemande ou à l'autrichienne, où les forces sociales se mettent autour de la table et dans un long processus de compromis avec le patronat, avec le gouvernement, voilà, accouche de solutions pour en sortir. On en revient en effet à un vieux trait culturel qui est cette presque valorisation par les acteurs sociaux et les acteurs politiques de la logique du conflit. On remue les grands symboles révolutionnaires. En effet, Jean-Luc Mélenchon parle, par exemple, dans son blog que je lisais hier, du fait que le temps de l'insurrection est revenu. Donc aussi, la France, c'est ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, vu de l'étranger, on nous regarde tout de même, toujours, avec des yeux extrêmement étonnés. Il faut lire ce que j'ai fait ce matin, la presse étrangère. La presse étrangère nous regarde avec énormément d'étonnement, d'interrogation, parce que c'est aussi une spécificité très franco-française qui se dit dans ce qui se passe dans les rues des villes françaises aujourd'hui.
Et vous avez analysé la protestation des Gilets jaunes, la protestation électorale également. Il faudra donc un autre tome à ce livre, Le Grand Écart, Pascal Perrineau, pour analyser sans doute la protestation qui a cours aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. La chronique d'une démocratie fragmentée, c'est le sous-titre de cet essai passionnant que vous publiez chez Plon. Je vous souhaite une bonne journée, Natacha et Gilles. Je vous dis à samedi prochain. Merci à Paola Puerari qui a préparé cette émission. Réalisation Claire Destacan à la technique, Louis Frapsos. C'est quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.